Bonjour.
Écoutez, ça vous vient d'où cette passion? Ça fait des années hein, déjà que vous écrivez, que vous vivez, que vous respirez au rythme de l'empereur Napoléon Ier, je le précise, et de cette époque-là. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous plaît?
Parce que c'est un personnage de roman formidable.
Ça, c'est vrai.
Pour moi, l'histoire de France, c'est un roman vrai, mais c'est un roman, donc il faut des bons personnages. La France vient de la Révolution française, pour une grande partie. On l'oublie souvent, parce qu'on enseigne en ce moment sur la scène publique souvent une histoire réactionnaire, mais l'origine, c'est quand même la Révolution. Et parmi les personnages de la Révolution, c'est le plus fascinant et le plus romanesque.
Il était Bonaparte, il est devenu Napoléon,
oui,
et c'est lui qui
général,
a fondé le socle de l'administration et de l'État français.
Il y a un héritage qu'on essaye toujours d'oublier, mais on a tort.
D'occulter.
Et parfois, il faut le rejeter. Hein. Le code civil est extrêmement réactionnaire, le code de la famille en tout cas. Par contre, il y a des choses qui sont plutôt bonnes, les lycées... Conseil d'État ou des choses comme ça, donc qui sont des institutions utiles. Même la Légion d'honneur, même si les gens de gauche trouvent que les Légions d'honneur, c'est horrible, moi je trouve que c'est pas mal. Les gens, on récompense les bons citoyens, c'est bien. Mais surtout, c'est une histoire que vous pouvez découper en période de 3 mois, l'itinéraire de Bonaparte.
Ouais.
Et chacun des 3 mois mérite 600 pages de roman.
Vous avez de la marge, donc.
Mais c'est vrai, parce que entre la campagne d'Égypte, la première campagne d'Italie, qui est la naissance de la guerre éclair en Europe... avec les soldats de l'an 2 qui sont encore dans les armées de la République, avec ce général efflanqué, malade, qui a une énergie extraordinaire et une intelligence stratégique supérieure. Et puis après, vous avez le consul qui réforme la France, un peu comme Macron aurait voulu le faire, mais il y a eu les gilets jaunes. Mais
ouais.
Bonaparte n'a pas eu de gilets jaunes, lui. Donc il a fait la réforme en quelques mois, il a changé complètement le pays. Et ensuite, vous avez la campagne d'Italie, la deuxième, avec Marengo, où il perd la bataille, mais il la gagne 2 heures après. C'est un roman incroyable.
Donc en fait, c'est tout Napoléon. C'est pas le Napoléon.
C'est un tyran, soyons clairs.
Okay,
je ne suis pas bonapartiste.
Mais c'est pas
c'est un tyran
le combattant
et son héritage
seulement.
Doit être
c'est tout Napoléon. Il n'y a rien acheté. Tout a étudié.
En termes de récit, non, il n'y a rien acheté. Au contraire, parce que vous avez aussi la naissance du nationalisme dans les autres pays, les pays conquis par la France.
Oui.
Mais vous avez aussi cet ambigu, parce qu'il émancipait les Juifs, par exemple, quand il arrivait dans un pays conquis. C'est un héritier de la Révolution, quand même si c'est un tyran. C'est un tyran rationnel. Donc, il met en place des lois égalitaires surmontées par un dictateur qui est son frère ou son cousin, etc. Parce qu'il met sa famille partout en Europe. Vous savez, à un moment, la France avait 140 départements.
Oui.
Et au sud, le plus au sud, c'était Rome, les Bouches du Tibre, chef-lieu Rome.
Oui.
Et au nord, il y avait les Bouches de l'Èbre, je crois.
Oui, du côté d'Hambourg, là-bas.
Chef-lieu Hambourg. C'était la France. Alors c'est une folie, évidemment, ça effondré 2 ans après. Mais bon, c'est fascinant, c'est une histoire incroyable. C'est mieux que Game of Thrones, ce truc-là. Oui,
et donc, l'un de vos prochains livres, Laurent Geoffrin, ce sera une fois Napoléon. Alors celui-là, non, en l'occurrence,
oui.
Non.
Non, il va jusqu'à la Révolution, il y aura le deuxième tome qui va de la Révolution, il y aura Napoléon dedans.
Merci beaucoup, bon dimanche Laurent Geoffrin.
Merci.